Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission L'eau à la bouche de ce mois de mars 2013. L'eau à la bouche, une émission interassociative proposée par Mathieu Tellen et Adrien Delgrange et diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Radio Larzac, Divergence FM et Radio Clapas. Et ce mois-ci, nous vous emmenons à Villevérac, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, si j'ose dire, du bassin de Thau, où nous sommes accueillis par des membres de l'association de la LPO de l'Hérault, la Ligue de protection des oiseaux, et plus précisément au Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, inauguré le 23 juin 2012. Autour de moi, Micheline Blavier, vice-présidente de la LPO 34, et Pierre Maigre, le président de cette association, association centenaire fêtée l'an dernier. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur les fondamentaux de la LPO avec vous, Pierre Maigre.
Oui, alors si la Ligue pour la protection des oiseaux au niveau national est bien centenaire, puisqu'elle a été créée en 1912 pour protéger les pingouins et les macareux des sept îles qui étaient tirés par des fusillos, j'allais
en
dire.
Bretagne, alors.
En Bretagne, la Ligue pour la protection des oiseaux de l'Hérault, elle, est une toute jeune fille, puisqu'elle a été créée en 2006.
Alors revenir sur quand même juste d'abord ce centenaire, et est-ce que les objectifs de départ sont toujours les mêmes ?
Alors les objectifs de départ ont été dépassés, ce qui est une excellente chose. Je rappellerai que la Ligue pour la protection des oiseaux au niveau national regroupe 46 000 membres. Elle est présidée par l'animateur de télévision bien connu Alain Bourguin-Dubourg. Voilà, et puis elle s'occupe de tout ce qui est suivi de protection des oiseaux dernièrement ça a été élargi à l'ensemble de la biodiversité en France et dans les territoires d'outre-mer.
Puisque protéger les oiseaux, c'est protéger la biodiversité, c'est votre leitmotiv.
Oui, il serait illusoire de vouloir protéger les oiseaux sans protéger les milieux dans lesquels ils évoluent. C'est donc les écosystèmes et tout ce qui compose les écosystèmes, c'est-à-dire les différents taxons, que ce soit les mammifères, les insectes, les reptiles, les plantes, bien entendu, enfin, l'ensemble de la biodiversité.
Et alors, pourquoi plus récemment vous êtes ouvert à la faune sauvage ? C'était une demande de la population ?
Non, je crois que c'est une réalité qui s'est imposée à tout le monde. Les problèmes d'aujourd'hui ne sont plus ceux qui ont prévalu à la création de la LPO il y a 100 ans. Alors, autrefois, c'était effectivement le tir, ça a été la plumasserie avec la destruction des oiseaux pour orner, qui permettait d'orner avec les plumes ainsi récoltées les chapeaux de ces dames, etc. Je crois que les problèmes sont tout autres. Les atteintes au milieu naturel sont beaucoup plus importantes maintenant, beaucoup plus profondes, avec une disparition ou diminution vraiment très très importante de certaines espèces animales composant la biodiversité. Dernièrement, nous apprenions que des oiseaux en pleine agricole, des oiseaux qui autrefois étaient très communs, comme l'alouette des champs par exemple, ou le bouan jaune, peuvent accuser dans certaines régions des baisses de 75% de leurs effectifs en moins de 20 ans.
Y compris localement ?
Alors, y compris localement, nous avons des espèces dans le département de l'Hérault qui disparaissent doucement, sans crier garde, sans que personne ne s'alarme. Bien entendu, il y a des efforts considérables qui sont faits pour la protection d'espèces emblématiques, comme l'aigle de Bonelli, par exemple, ou certains grands rapaces, mais des oiseaux aussi discrets que le traquet oreillard, que la fauvette à lunettes, sont en voie de disparition, sachant que le Languedoc-Roussillon, ces dernières années, a perdu une espèce qui est le traquet rieur, et on ne le trouvait en France plus que dans ce département, donc c'est une perte sèche pour la biodiversité nationale.
Micheline Blavier.
Oui, et même les espèces communes sont en diminution, telles le moineau domestique, le moineau friquet, les hirondelles sont en diminution importante.
Alors vous nous recevez d'ailleurs aujourd'hui dans une des pièces du Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage et nous sommes entourés d'oiseaux. Alors les oiseaux sont pas très loin dans des volières à l'extérieur. Il y a une exposition autour de nous, une exposition qu'on a pu voir donc du côté de Béziers et qui est là et qui a la particularité d'avoir été proposée donc par des membres de la LPO, principalement avec des oiseaux de la région, Micheline Blavier.
Oui, oui. Ces 16 magnifiques photos ont été faites par nos adhérents. Et donc, nous les avons sortis en grand format. Et c'est une exposition qui va tourner dans tout le département.
Avec quels oiseaux, par exemple ?
Alors, eh bien, il y a aussi bien des oiseaux, des rapaces nocturnes, comme le hibou grand-duc, comme la chouette chevêche, mais aussi un petit oiseau qu'on trouve plus spécialement en Méditerranée, comme la fauvette mélanocéphale, des migrateurs, comme le magnifique rôlier d'Europe, des oiseaux de plaine agricoles qui sont malheureusement en voie de grande voie de, en grande diminution, comme l'outarde canepetière, les pigrièches.
Des oiseaux très colorés aussi.
Oui, comme le roulier, hein, le roulier d'Europe, qui est un oiseau très coloré. Le
dans guépier, des bleus.
Voilà, le guépier aussi, très coloré. Ce sont des oiseaux migrateurs qui nous arrivent pour passer l'été, pour se reproduire ici dans notre région. Et puis, il y a aussi un oiseau qui maintenant ne vit plus que dans l'Hérault, la pigrièche à poitrine rose. Nous avons la chance, le privilège, l'Hérault, le département de l'Hérault, d'accueillir une vingtaine de couples chaque été, des couples qui arrivent au mois de mai, qui repartent au mois de juillet uniquement pour se reproduire. Autrefois, c'était des oiseaux qui étaient présents jusque dans les années au XXe siècle, disons, qui étaient présents dans pratiquement toute la France et qui maintenant n'est plus qu'en Hérault.
Alors dans quelques instants, nous nous déplacerons donc dans le centre régional pour aller rejoindre deux soigneuses de la faune sauvage, Maëlle Carmabon et Lucie Hirle. Mais juste avant, revenir un peu donc sur cet hôpital hein, pour oiseaux et faune sauvage. J'ai envie de dire, dernier cri, on a l'impression qu'on arrive, on voit des panneaux solaires, on voit un bâtiment bardé de bois. Est-ce que vous pouvez nous présenter les lieux plus en détail, Pierre Maigre, président de la LPO de l'Hérault?
Oui, alors c'est effectivement un ensemble qui a été réalisé avec de très nombreux partenaires, hein, financiers et puis techniques. C'est un ensemble que nous avons souhaité à la pointe un petit peu de tout ce qu'on appelle le développement durable, puisqu'il est labellisable passive house, c'est-à-dire maison passive. Autrement dit, ce sont des critères quatre fois plus contraignants que les critères habituellement retenus dans la région, qui sont ceux des Finergies. Hein. Alors, tout a été conçu dans ce bâtiment pour faire des économies d'énergie. On arrive à un niveau d'isolation qui est tout à fait remarquable.
Alors, vous avez donc des bureaux, des salles de soins, des volières?
Effectivement, c'est vraiment le siège de la LPO Hérault, hein, où nous avons rassemblé l'ensemble des salariés de notre association, puisque nous avons eu 8 salariés à ce jour. Et nous accueillons, bien entendu, pour le fonctionnement du centre, l'unité de soins, et même pour le suivi de certaines espèces, de très nombreux stagiaires, des éco-volontaires, tout ce monde ayant le même but, c'est la préservation, je dis bien, de la biodiversité, puisque même au niveau de l'unité de soins, si l'année 2012, tout au moins une partie, puisque les premiers animaux ont été recueillis le 6 juin dernier, et donc du 6 juin au 31 décembre, ce sont 973 animaux sauvages qui ont été recueillis, dont une cinquantaine de mammifères. Donc ce n'est pas que les oiseaux, et nous avons même obtenu de Monsieur le Préfet une habilitation concernant, donc c'est l'ensemble des oiseaux d'Europe bien sûr, les mammifères jusqu'à la taille du renard et du blaireau, puisque nous n'avons pas souhaité recevoir des sangliers par exemple, mais nous pouvons recevoir aussi deux tortues d'eau douce autochtones que sont la cistude d'Europe et les mythes de lépreuse.
Alors pour bien comprendre, si on disait en introduction que la LPO existait maintenant depuis plus de 100 ans, le centre dans lequel nous nous trouvons a à peine un an, il y avait un manque réel dans l'Hérault et en Languedoc-Roussillon en termes d'accueil pour les oiseaux blessés, Pierre Maigre.
Oui, alors jusqu'à ces dernières années, il n'existe pas toujours d'ailleurs de centre d'accueil dans les Pyrénées-Orientales ou dans l'Aude, ni même dans le Gard. Il existait un centre qui était situé à Frontignan chez un bénévole, et je le salue au passage, car ça veut dire pour quelqu'un qui s'occupe d'un centre de ce type, aucun jour de congé, bien entendu. Il recevait environ 400 oiseaux par an, puisque lui ne soignait pratiquement que des oiseaux, sauf une fois de temps en temps des des hérissons, mais c'était une mobilisation de tous les jours et j'allais dire de toutes les heures. Donc nous avons souhaité créer un centre. Quasiment en même temps, il s'est créé un petit centre dans le nord-est du département, d'ailleurs, qui fonctionne chez un vétérinaire.
À Ganges ?
Près de Ganges, oui, à Brissac. Notre centre, ici, ayant une vocation régionale, d'ailleurs, et nous recevons régulièrement des animaux provenant des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, voire du Gard. Hein.
Et donc vous bénéficiez quand même de relais ou pas à l'échelle de la région Languedoc-Roussillon, puisqu'on peut imaginer qu'on peut mettre plusieurs heures pour venir jusqu'à vous ici à Villeverac.
Alors c'est un des problèmes que nous rencontrons, l'acheminement justement de l'animal, il est tout à fait exclu pour des raisons évidentes d'emploi du temps et puis des raisons économiques, financières, que les soigneuses s'absentent pour aller chercher des oiseaux, sauf cas exceptionnel, comme c'est arrivé encore il y a 3 jours, où elles sont allées récupérer dans un état un flamant rose handicapé. Mais autrement, ce sont souvent les découvreurs qui nous apportent eux-mêmes les oiseaux. Et en plus, nous avons mis en place tout un réseau de bénévoles qui peuvent être contactés et qui se chargent d'acheminer les oiseaux, parfois en mettant en place plusieurs relais d'ailleurs, du lieu de découverte jusqu'au centre de soins.
Alors si vous insistez donc sur le fait que ce sont donc les découvreurs qui peuvent apporter ici, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comment ça se passe ?
Alors, avec votre autorisation, nous laisserons aux soigneuses quelques heures de repos quand même, mais 7 jours sur 7, oui. Le centre est ouvert, alors en fonction des saisons bien entendu, au cœur de la saison forte, c'est-à-dire les mois de juin, juillet, août, c'est quasiment de 7h du matin jusqu'à 18h, 19h et des fois plus tard, si besoin ça fait sentir. À l'heure actuelle, c'est de 9h le matin jusqu'à 17-18h.
Avec un numéro de téléphone qu'on donnera en fin d'émission et puis un site internet LPO 34. Quelles sont les principales causes pour lesquelles les oiseaux ou les animaux arrivent blessés ici à Villeverac ?
Alors c'est très varié. Hein. Ça va bien entendu au printemps de l'envol prématuré, de la chute du nid. On reçoit de très nombreux poussins. Au printemps dernier, ce sont près de 250 poussins de martinet noir, par exemple, qui, ne supportant pas la chaleur intense sous les tuiles des maisons où les nids avaient été installés, ont plongé dans le vide pour échapper à cette chaleur. Et ne sachant pas voler, ils se retrouvent dans la rue, on nous les apporte. Il y a aussi malheureusement encore quelques dénichages volontaires, beaucoup de chocs contre des véhicules automobiles, voire des vérandas ou des baies vitrées.
Dénichages volontaires ?
Oui, ça peut arriver que des personnes soient, par exemple, se trouvant indisposées par la présence d'un nid d'hirondelle sur leur façade, etc., détruisent le nid et les poussins se trouvent au sol. Ou alors, certaines espèces, comme les pies, comme les choucas, etc., il y a des prélèvements qui se font comme ça, avec la destruction du nid. Il y a également, bien entendu, des causes liées à l'état sanitaire des oiseaux. En particulier sur des zones humides au cours de l'été, on a recueilli de nombreux oiseaux atteints de botulisme. C'est donc c'est quelque chose qui se développe dans les eaux chaudes, etc., qui manque d'oxygène. Et puis à l'automne, malheureusement, nous recevons quand même un certain nombre d'oiseaux présentant des traces de tir par plan de chasse, y compris des espèces protégées d'ailleurs.
On pense aussi, quand on parle de LPO, aux oiseaux parfois victimes de marée noire. C'est déjà arrivé ou pas dans le département de l'Hérault ?
Alors, c'est arrivé il y a une vingtaine d'années, assez régulièrement, des navires qui venaient décharger leur cargaison au Sea Line, au large de Frontignan, pour la raffinerie. Des fois, ils nettoyaient un petit peu leur cuve avant de partir. Et tous les hivers, nous récupérions quelques pingouins. Depuis la fermeture de l'unité de raffinage de la Mobile, c'est quelque chose que nous n'avons pratiquement pas. Il est vrai aussi que nous n'avons pas du tout le même trafic en bateau que ce que l'on peut rencontrer au large de la Bretagne et sur les côtes atlantiques, et que le phénomène des marées en Bretagne repousse les oiseaux vers le rivage, alors que si une marée noire survenait en Méditerranée, vraisemblablement les oiseaux piégés auraient tendance à couler et ne pas être rejetés sur le rivage. Donc pour le moment, c'est une problématique que nous n'avons pas eu à affronter. Ceci étant, Bien que nous n'ayons pas souhaité nous lancer dans un investissement de type préventif pour soigner ce, pour apporter une solution à ce type de problème-là, nous avons préservé un espace dans le centre qui nous permettrait d'accueillir, si le problème se posait, des unités mobiles mobilisables en 24 heures qui viendraient de La Rochelle où il y a deux camions d'unités mobiles avec tout un équipement pour le soin aux oiseaux mazoutés. Donc à la moindre alerte, le réseau fonctionnerait et on pourrait avoir une réponse adaptée très très rapidement.
Et enfin, pour terminer cette succincte présentation de la LPO, vous avez aussi également comme principal objectif à 100% de relâcher, de remettre en liberté tous les oiseaux et tous les animaux que vous recevez ici.
Alors, en ce qui concerne le centre de soins, effectivement, nous avons comme objectif de relâcher le plus grand nombre d'animaux récupérés blessés. Hein. Malheureusement, certains arrivent dans un état désespéré. D'autres ne peuvent pas récupérer leur intégralité physique. Donc, ceci, malheureusement, nous ne pouvons pas les garder non plus. La loi nous l'interdit. Hein. Les premières statistiques démontrent qu'environ 40-45% des animaux récupérés au centre peuvent être rendus dans de bonnes conditions au milieu naturel.
Nous faisons d'ailleurs des relâchés avec les médias et avec le public. Notamment, cet hiver, nous avons relâché un milan royal, des vautours fauves au cirque de Navacelles. Et nous essayons de faire, notre animateur, puisque nous avons un animateur salarié, essaie de faire le maximum de relâchés avec des enfants.
Avec donc tout le volet éducatif.
Puisqu'ici, nous avons la chance aussi d'avoir un jardin pédagogique. Nous avons créé, grâce à la sueur et de nombreux adhérents, un grand jardin pédagogique avec... planter de plantes indigènes d'ici. Puis nous avons aussi fait il y a aussi des accueils d'insectes, des hôtels à insectes fabriqués par nos adhérents aussi, une spirale aromatique en pierre sèche, enfin, et puis des panneaux qui expliquent toute la biodiversité qu'on accueille ici dans le jardin pédagogique. Et bientôt, il y aura en marche aussi une mare pédagogique qui, on espère, accueillera des batraciens.
Nous sommes avec Micheline Blavier et Pierre Maigre de la LPO 34. Vous écoutez l'émission L'eau à la bouche, musique. Et puis juste après, on retrouvera Mathieu Télène dans la salle de soins avec deux soigneuses de ce centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, Maëlle Carmabon et Lucie Hirle. De retour dans l'émission L'eau à la bouche, après avoir écouté Divano Dromensa, nous sommes dans une des salles de soins du centre régional de sauvegarde de la faune sauvage, accueillie par Maëlle Carmabon et Lucie Hirle. Vous êtes les deux soigneuses faune sauvage. Alors peut-être en quelques mots, nous préciser votre quotidien pour commencer, Lucie.
Oui, alors notre quotidien, c'est essentiellement accueillir les nouveaux pensionnaires. Donc ça, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver, c'est au jour le jour. Et puis faire les soins quotidiens, le nourrissage et le nettoyage. Ça, c'est ce qu'on fait en premier dans une journée. Puis en fonction de ce qui arrive, ben les journées changent.
Mathieu Tellen.
Juste pour essayer de décrire là où nous sommes, hein, nous sommes entourés dans une salle très blanche, on a l'impression d'être dans un univers de clinique vétérinaire. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur votre parcours personnel ? Est-ce que vous êtes toutes les deux issues d'écoles vétérinaires ? Ou bien comment est-ce qu'on en vient à devenir soigneuse ? L'une et l'autre, quel a été votre parcours jusqu'à ici aujourd'hui ?
Maëlle Carmabon.
Alors, le parcours est similaire pour toutes les deux parce qu'en fait, nous, on se connaît depuis très longtemps. Donc, on est parties toutes les deux, justement, dans le soin de la faune sauvage ensemble. Alors, on n'a pas une école vétérinaire, pas du tout. Nous, en fait, on a d'abord une formation sur la protection de l'environnement. Et après, on est parties plus sur du soin. Et en fait, on a toutes les deux un certificat de capacité de soins à la faune sauvage. Donc, en fait, on n'est pas soigneuse, on est co-responsable du centre de soins. C'est-à-dire quand on gère à la fois tout ce qui est soins animaux, mais on gère aussi toute la gestion administrative et tout ce qui tourne autour du centre de soins, en fait.
Et donc, quand vous êtes en phase de diagnostic, que vous recevez un animal, vous ne savez pas forcément quelles sont ses maladies ou ses plaies ou qu'est-ce qui lui est arrivé, de quelle manière vous travaillez ? Est-ce que c'est sur votre propre intuition ou sur ce que vous arrivez à apercevoir, que vous vous basez pour construire un peu le programme de soins qui va suivre derrière, ou bien est-ce que vous êtes amené à faire appel à des équipes vétérinaires, soit localement ou peut-être un peu plus lointain ?
Lucie Hirle.
Alors déjà, en fait, en amont, quand on accueille l'animal, on essaye d'avoir le maximum d'informations. Parce que savoir où l'animal a été trouvé, ça nous donne en fait déjà une bonne piste pour un diagnostic. C'est-à-dire que par exemple, un choc véhicule ou par exemple un oiseau marin qui a été trouvé dans l'eau affaibli, déjà on a une petite idée, enfin, ça nous aide beaucoup. Et ensuite, c'est des blessures assez similaires qui reviennent. Nous, on fait beaucoup d'accueil d'oiseaux. Et sur les oiseaux, c'est aussi par période, par saisonnalité. Donc en ce moment, par exemple, c'est plutôt les fractures. On a énormément d'oiseaux qui soit se sont pris des objets fixes, soit donc des voitures, ou on a eu aussi beaucoup d'oiseaux qui ont été tirés, des espèces protégées qui n'auraient pas dû. Donc voilà, donc là, par exemple, les causes d'accueil, fractures, on ne sait pas toujours, pas souvent d'où vient la fracture, mais en tout cas, diagnostiquer, c'est très facile. C'est au palpé, enfin, je veux dire... Il n'y a pas de doute.
Et en l'occurrence, là, aujourd'hui, début mars, quels sont les types d'oiseaux déjà que vous avez ici en soins, avec quelle souffrance ?
C'est essentiellement des buses qu'on a accueillies depuis quelques mois. On va dire que c'est vraiment l'espèce phare là, de cet hiver. Et c'est pas mal de fractures. Et sur les buses, donc, ça a été beaucoup soit de tirs illégaux, soit de choc véhicule ou choc objet fixe. Pour nous, choc objet fixe, c'est tout ce qui va être choc. Par exemple, ça peut être contre une ligne électrique, ou ça peut être un câble, ou ça peut être un oiseau qui n'a pas vu une baie vitrée et qui s'est pris la baie vitrée. Voilà. Mais comme on ne sait pas exactement, on le classe dans ces causes-là.
Alors dans quelques minutes, on va s'intéresser aux soins d'un flamant rose. C'est déjà assez impressionnant, je trouve, de se retrouver à 2 mètres de cet individu. Alors j'utilise le mot individu, je voudrais savoir quel vocabulaire vous utilisez. Je suppose que quand vous avez des animaux, il y a un contact, un lien qui se crée assez fort. Puis je pense que c'est aussi peut-être une des raisons du pourquoi de votre présence dans ce centre. Vous parlez de quoi ? De patients, d'animaux, d'individus ? Quel mot vous utilisez dans cette construction de rapport que vous avez avec l'animal, si on prenait un terme très général ?
Alors, nous, on essaye de garder toujours une distance, en fait, avec les animaux qui sont en soins chez nous, parce qu'il faut garder dans l'esprit que c'est des animaux sauvages, que l'objectif, c'est les réintroduire dans la nature, et que nous, on intervienne juste le moment, en fait, où ça va pas. Donc, on parle en termes d'individus, justement, donc c'était le terme parfait. Et après, il faut savoir que nous, chaque animal qui rentre au centre a un numéro interne qui le suit de son entrée jusqu'à sa sortie. Donc là, en l'occurrence, le flamant rose que vous avez devant vos yeux, c'est le numéro 112. Donc c'est le 112e accueilli depuis le 1er janvier. Donc ça marche comme ça, et chaque fin d'année, on repart à zéro. Donc voilà. Après, on a une relation qui s'établit de confiance quand même, parce que les animaux, on les manipule tous les jours, on est obligé, surtout ceux qui ont du soin quotidien. Mais on essaye de pas parler avec eux, on essaye de minimiser le plus possible le contact. Quand ils ont des traitements, on leur donne en même temps qu'on nettoie la cage. On fait pas la cage après le traitement. Et après, on essaye de faire en sorte de les laisser tranquilles une fois qu'on a donné à manger les médicaments et nettoyé la cage. C'est vraiment, on essaye de vraiment limiter l'approche.
Qui dit approche dit contact. Je suppose que le premier contact, est-ce que vous arrivez à ressentir quel a été le vécu de l'animal par rapport à l'être humain ? Est-ce que c'est de la peur qu'il exprime, de la fuite, un côté farouche, très sauvage, ou bien il veut pas se laisser approcher, il va aller au coin de la pièce et ou dans au coin de sa cage. Comment est-ce que vous abordez ce moment-là où en fait se joue votre relation de soigneur avec l'animal ?
Alors, c'est vrai que la première approche est toujours un peu délicate parce qu'on les connaît pas et ça a beau être des oiseaux, ils ont chacun leur comportement et leur caractère, il y a quand même une différence. Nous, en fait, la première fois qu'on les attrape, on leur montre quand même qu'on a un certain maintien sur eux et qu'ils peuvent pas nous attraper parce que Lucie parlait tout à l'heure de buses, c'est vrai qu'on en a énormément et les buses, ça dessert, donc ça peut faire mal, donc il faut faire attention. Et après, de toute façon, il y a ce phénomène où les oiseaux ont forcément peur. Là, on parle d'oiseaux parce que c'est ce qu'on a le plus ici, mais l'oiseau va forcément avoir peur. Et en fait, ça se traduit de deux façons. Soit il va être complètement apeuré, il va se tapir au fond et il va plus bouger. Soit, au contraire, il va montrer une agressivité importante et il va essayer de vous attraper. Donc après, c'est à nous de savoir. Et puis, nous, après, on met en garde parce qu'on a pas mal de bénévoles, de stagiaires sur le centre. Donc, on leur dit, bon, ben, celle-là, il faut faire attention, ce numéro, ça va. Donc après, au quotidien, on les connaît, on fait attention et on sait lequel va pas, il faut pas de bruit, celui où il faut être plus rapide. Donc, c'est au cas par cas.
Alors juste derrière, je vois un tableau avec les différentes espèces, je suppose, qui sont présentes aujourd'hui dans le centre, avec à côté l'alimentation, le type, les symptômes, la médication qui est à suivre. Et puis sur la table, juste devant nous, une fiche d'accueil de l'individu 112, donc ce flamant rose. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur cette fiche d'accueil ? Quels sont les renseignements que vous y reportez et pourquoi ?
Lucie Hirle.
Donc on prend tous les renseignements, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la capture, c'est-à-dire le lieu, la date, même si jamais il y a un lieu dit, enfin, on essaie de faire parler les gens pour avoir un maximum d'informations. Sur la capture, on met l'espèce, si on peut sexer, on sexe, si on peut âger, on âge donc l'individu, et ensuite c'est les coordonnées du découvreur. Voilà. Donc ça peut être important pour nous, soit pour rappeler la personne pour avoir plus d'informations, ou par exemple si jamais il y a un relâché ou des choses comme ça, ben, prévenir les gens.
Et en l'occurrence, là, sur le flamant rose, vous en êtes où dans votre travail ?
Alors, le flamant rose, il a une histoire un petit peu spéciale, vu qu'on est allé le capturer. Et là, c'est en bonne voie, vu qu'au départ, il avait une belle infection au niveau de la patte et à l'aile aussi, mais pas de fracture. Donc, ça s'est complètement stabilisé. Et il a été chez le vétérinaire, donc il est sous antibiotiques. Là, l'infection est complètement stabilisée et... les chairs sont en train de cicatriser. Et on pense qu'il ne pourra pas tarder à passer en extérieur.
On se fait discret, on vous laisse le soigner ?
Oui.
Alors Maëlle va essayer de l'attraper. Je crois que c'est ça.
Donc là, en fait, on couvre la tête de l'animal parce que ça le stresse énormément et... Le fait qu'il ne nous voit pas, ça le stresse moins. Donc on va commencer par la patte. Donc ça, on fait ça tous les jours. Hein. On retire l'ancien bandage, on nettoie la plaie. Et ensuite, ben, on applique un tulle gras pour que la blessure reste bien...
bien humide.
Bien humide, et ensuite on referme le pinceau.
En fait, lui, c'est un peu particulier ce qui s'est passé. C'est que c'est un oiseau qui a été pris dans... Enfin, il avait un hameçon accroché à l'aile gauche. Et en fait, cet hameçon, il y avait du fil de pêche qui s'est entouré tout autour de sa patte gauche. Donc, c'est un adhérent de notre association qui l'a découvert au bord de l'étang de Thau. Il a réussi à lui enlever l'hameçon et le fil, mais en fait l'oiseau a réussi à s'échapper à ce moment-là. Donc on l'a suivi pendant 2 ou 3 jours pour voir son comportement. Ça allait pas, il avait pas un comportement normal. Ça veut dire qu'en fait c'est un animal à la base qui est grégaire, qui va être avec les autres, qui va suivre les autres, qui va pas dormir avec ses congénères. Et lui, pas du tout, il avait pas du tout ce comportement-là, il restait isolé, bien qu'il s'alimentait toujours. Donc en fait, on a essayé de le capturer 3 jours après, seulement il s'est envolé, donc on n'a pas réussi. Et 15 jours plus tard, parce qu'on faisait, on le suivait toujours, en fait, 15 jours plus tard, là, ça allait vraiment pas. Donc on a décidé avec Lucie d'intervenir et on a réussi à l'attraper. Donc lui, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'il a une histoire un peu particulière. C'est que c'est un animal qu'on suit quand même depuis un petit moment, malgré le fait qu'on l'avait pas au centre de soins.
Avec donc sa vie qui n'est pas en péril, il va retrouver la liberté bientôt ?
Oui, il devrait retrouver la liberté rapidement, sachant que quand même, vous voyez, au niveau de sa patte, c'est pas encore très propre, c'est pas encore beau. Il faut le temps de la cicatrisation. Mais oui, lui, il retrouvera ses congénères et il sera relâché à l'endroit où on a été le capturer. Hein.
Est-ce qu'on peut dire si c'est un mâle ou une femelle ?
Alors c'est un mâle adulte. Donc ça se voit par rapport à la couleur de son plumage et par rapport à la taille et à son poids. Donc lui c'est un mâle et en plus c'est un beau mâle quoi. Il est très coloré. Nous quand on l'a accueilli, il n'était pas après. Il mange bien, il s'alimente bien. C'est un bel individu. Hein.
C'est quoi la différence de couleur de plumage entre le mâle et la femelle pour le flamant rose ?
Alors, c'est pas la différence de couleur, c'est entre les immatures et les adultes. C'est-à-dire que les immatures vont être gris et les adultes vont prendre cette couleur rose là qu'on a sur au niveau des ailes. Donc c'est la seule chose. Après en fait, mâle et femelle, on les distingue par la taille et le poids. C'est la seule chose en fait. Sinon, ils ont la même d'aspect extérieur, ils ont les mêmes apparences.
En l'occurrence, il est grand, en tout cas vu de près.
Voilà, c'est ça. Les mâles sont plus grands et les mâles sont plus lourds que les femelles.
Ça mesure combien ? Et il pèse combien ?
Alors lui, il fait 3 kilos et en taille, je ne sais pas, on ne l'a pas mesuré exactement.
On ne l'a pas mesuré, mais en taille, il doit bien faire 1,20 m, je pense.
Ouais.
Enfin, si on prend vraiment des pattes jusqu'à la tête.
Sans déplier le cou. Parce que, comme vous avez pu voir, il a un cou assez surprenant.
Et donc là, c'était des désinfectants ?
Oui, alors d'abord, j'ai utilisé de la bétadine scrub, tout simplement, pour c'est de la bétadine savon, c'est pour nettoyer la plaie, et puis surtout enlever tous les petits tissus morts, tout ce qui est nécrosé, c'est important, et pour laisser le tissu sain, en fait, venir. Ensuite, j'ai rincé, j'ai séché, et puis j'ai appliqué, ça, c'est un produit un petit peu miracle, on l'utilise beaucoup, c'est un antiseptique cicatrisant, en fait, à base de plantes. Et ça marche très très bien. Ensuite, j'ai mis un petit peu de tulle gras et j'ai refermé avec un bandage. Voilà. Et donc on va procéder à peu près de la même façon pour l'aile, sauf que l'aile, la cicatrisation est en meilleure voie. Donc du coup, on le bande plus parce qu'il avait tendance à s'arracher le bandage. Ça l'agace. Ça doit le gêner. Donc.
On peut juste peut-être préciser que pour l'instant, l'animal est très calme. Il bouge très peu. Quoi. Il s'intéresse un petit peu, je pense, à ce que vous êtes en train de lui faire.
C'est parce qu'il est bien maintenu. Ouais. Et parce qu'en fait, vous n'avez peut-être pas l'impression, mais Maëlle le plaque complètement au sol. Et pour bien soigner un animal, en fait, il faut être deux déjà. Il faut que la personne qui tienne, en fait, elle tienne bien. Et que l'animal, en fait, sente qu'il est... Il n'a pas d'issue, en fait. Dès qu'ils sentent qu'on relâche la pression, ils en profitent et puis ils s'enfuient. Donc là, c'est très bien maintenu. Merci.
C'est gentil.
Il faut forcément bien s'entendre pour faire ce métier.
Oui, on est obligé parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément évident tous les jours. On se retrouve devant des cas un peu particuliers et puis c'est toujours... Nous, les animaux, quand ils arrivent, il faut s'imaginer qu'avant qu'ils soient découverts, ils ont passé un moment dehors, blessés. Donc c'est vrai que des fois, c'est un peu dur. Et puis, c'est toujours plus facile quand on s'entend bien.
Donc là, on est sur la base de l'aile. Et c'est vraiment très, très petit.
Alors,
on a l'aile est très impressionnante du flamant rose, mais si on lui enlève ses plumes, là, on est sur un membre qui est vraiment très peu. Et là, par contre, la plaie semble
la plaie est
beaucoup moins... Ouais,
allez-y. La plaie était quand même importante au début. Puis donc on a été obligé de retirer toutes les plumes, notamment ben, pour pas qu'elles soient dans la plaie et puis que ça s'infecte. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on enlève les plumes, ben, on a l'impression que les oiseaux sont tout petits. Hein. Ça c'est pas évident. Et surtout, ils ont une peau très très fine. C'est pas du tout comme les mammifères. C'est-à-dire que ben, la peau est quasi, on va pas dire inexistante, mais c'est vraiment très 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 fin.
Du coup, c'est ça qui la rend aussi très fragile. Donc là on voit bien, il y a cet endroit où ça a été complètement arraché. C'est la base où était accroché l'hameçon. Et donc, on voit qu'un simple hameçon a pu quand même lui arracher. Ça fait la taille d'une pièce de 2 euros, quoi. Donc, c'est vraiment très, très fragile.
Et pour cet individu, donc là je suppose que les plumes vont une fois la plaie cicatrisée et disparue, les plumes vont repousser d'elles-mêmes. Est-ce qu'il y a un risque qu'il se retrouve handicapé du fait de cette blessure, ou là c'est relativement bénin, il y a quand même des grandes chances qu'il puisse retrouver sa capacité de vol?
Alors, faut savoir que bon, là c'est bénin dans le sens où l'infection a été maîtrisée par l'antibiotique plus par l'application quotidienne de produits désinfectants directement. Par contre, c'est vrai que là il lui manque des plumes, et il faut savoir que nous on relâche pas un animal avant qu'il soit vraiment prêt à regagner le milieu naturel et à se débrouiller tout seul. Donc lui, il va rester, une fois qu'il n'aura plus de soins quotidiens, il va passer en volière, il va rester en volière jusqu'à ce qu'il retrouve son plumage et jusqu'à ce que vraiment on ait un oiseau qui soit complètement capable de survivre dans le milieu naturel. Hein.
Et vous lui avez aussi administré un petit médicament?
Oui, exactement. Donc ça, c'est notre vétérinaire. Donc, c'est la clinique vétérinaire de Montbazin. Et on travaille énormément avec eux. C'est notre vétérinaire référent, M. Marc Naudet. Et il y a aussi son associé Armand Soria qui nous aide beaucoup. Et ça, c'est très important pour nous parce que justement, ben, quand il y a besoin d'antibiotiques ou de chirurgie, radio, tout ça, ou tout simplement, ben, des fois, on a besoin de lui pour un diagnostic plus poussé. Donc il est là et c'est quelqu'un de très important pour le centre de soins. Il n'est pas ici, mais il joue un rôle clé.
J'avais une question. Là, on vient de suivre avec vous le soin de cet individu. Entre deux soins, comment s'effectue la surveillance des individus? Est-ce que vous les laissez entièrement libres, ou est-ce que vous êtes obligé de faire des rondes, de venir voir régulièrement comment ça se passe?
On les met dans un carton de mise en attente, on appelle ça. Donc en fait, on a un carton avec une grille au-dessus. Puis tout simplement, on prend l'animal, on le met dans le carton de mise en attente. Et pendant ce temps-là, on change. Ou par exemple, ce qui est pas mal, c'est là, s'il y avait une troisième personne qui fait le box pendant qu'avec Maëlle, on fait le soin. Ça arrive parfois quand le soin est un petit peu long. On profite de ça parce que, comme vous pouvez voir, les oiseaux sont changés tous les jours, mais ça salit énormément. Et en fait, on passe finalement plus de temps à nettoyer, à leur préparer à manger que vraiment à être en contact avec eux.
Et dans les autres cages, là, vous les mettez dans l'obscurité, les oiseaux?
Oui, alors on les met surtout dans l'obscurité quand on est là. C'est-à-dire que non seulement c'est un petit peu... il ne faut pas de barreaux, pas de grilles, parce que tout simplement, ils pourraient passer un bout d'aile et puis se blesser. Donc les parois, c'est bien si elles sont pleines. Et après, sur la grille du devant, en fait, quand on est là et quand on fait un soin, on rabaisse tout. Par contre, dans l'après-midi, en général, vu qu'on ne repasse pas, là, on relève les serviettes pour qu'ils puissent avoir du soleil et puis fixer les vitamines, tout ça. Voilà. Mais ils sont vraiment, surtout les oiseaux, dérangés par la vue. La vue et le bruit, ça les dérange vraiment beaucoup.
Qu'ils arrivent relativement bien à s'acclimater à ce nouvel environnement qui est fait de plastique, de blanc.
Ils finissent toujours par accepter, parce que je pense qu'ils voient surtout qu'on ne les maltraite pas. Puis, comme on vous a dit, on évite de les déranger régulièrement. On les dérange une fois par jour. Et puis après, je pense que ce qui joue beaucoup pour eux, c'est que on leur donne à manger. Donc ça leur convient bien.
On vous laisse terminer le soin.
Là, quand on les remet, lui, il faut faire attention, mais il faut l'aider un peu. Voilà. Il n'est pas content.
Quels sont les conseils à donner aux auditeurs qui pourraient trouver un oiseau malade et qui voudraient vous l'apporter?
Alors, la première chose à faire, en fait, c'est nous appeler. Nous appeler pour avoir les premiers conseils pour la capture, pour que ça se passe bien et que la personne ne prenne pas de risque et que ça soit là, pas de risque pour elle ni pour l'animal. Nous, la première chose qu'on fait, donc, c'est que quand ils nous appellent, on leur demande si l'animal est capturé ou pas. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qui lui fait croire que cet animal n'est pas bien ? Donc là, généralement, les personnes nous expliquent. Si la zone n'est pas encore capturée, on leur explique comment capturer. Donc là, c'est pas compliqué. Pour capturer un oiseau, en fait, il faut essayer de l'acculer dans un coin pour qu'il puisse pas vous faire tourner en bourrique et que vous lui couriez derrière pendant des heures. Donc il faut essayer de le coincer dans un coin. Le mieux, c'est d'être deux ou trois. C'est vraiment plus facile. Et en plus, d'être à plusieurs, ça permet de moins avoir peur, surtout quand c'est du rapace, des choses comme ça. Donc être deux ou trois, l'acculer dans un coin, se munir d'une grande serviette ou d'un grand drap. Et préparer un carton à l'avance. Et en fait, on coince l'animal et on lui jette le drap ou la serviette dessus. Et en fait, vous avez vu comme avec le flamand, c'est ce qu'on vous a expliqué, une fois que l'oiseau il est couvert, une fois qu'il a la tête dans le noir, il va tout de suite se calmer. Donc là, il va plus chercher à se débattre ou à fuir. Donc là, à ce moment-là, une fois qu'il est dessous, il faut bien rassembler tous les membres de l'oiseau autour de son corps, en fait, pour pas aggraver ses blessures. Il faut pas laisser partir une aile ou une patte. Et une fois qu'on a tout rassemblé, on le met dans son carton, on le met dans une pièce au calme. Soit on connaît déjà notre adresse, c'est encore mieux, et on nous l'amène directement. Soit nous, par téléphone, on vous explique et il n'y a pas de souci. Et les gens nous amènent les animaux comme ça. Donc généralement, nous, on essaye de les faire amener rapidement, le jour même. Mais ça peut arriver que ça soit le lendemain, mais c'est pas grave. Tant que l'animal est dans un carton au calme, dans une pièce tempérée, à température tempérée, tout va bien.
Merci Maëlle Carmavon et Lucie Hirle, soigneuse au centre régional donc de sauvegarde de la faune sauvage basé à Villeverac, entre Loupian et Villeverac, avec deux numéros de téléphone, un portable 06 29 81 66 31 06 29 81 66 31 ou alors un téléphone fixe 09 67 18 76 24, je répète 09 67 18 76 24. Ce centre régional est ouvert tous les jours ou presque?
Il est ouvert 7 jours sur 7. Donc il n'y a pas de problème, on est toujours là pour les accueillir.
Vous écoutez l'émission L'eau à la bouche, diffusée sur Radio Pays d'Hérault, Divergence FM, Radio Clapas et Radio Larzac, proposée et présentée par Mathieu Tellen et Adrien Delgrange. Nous sommes aujourd'hui à Villeverac, au nord du bassin de Thau, au centre régional de la sauvegarde de la faune sauvage. Un lieu, un hôpital pour oiseaux et animaux qui a moins d'un an d'existence. On vient de quitter les deux soigneuses avec le flamant rose qui bientôt retrouvera donc les volières qui sont juste derrière nous avant de retrouver une liberté totale. Nous sommes avec Pierre Maigre et Micheline Blavier du conseil d'administration de la LPO 34. Quelques mots sur le travail là qu'on vient de voir et finalement le succès et la mission que vous remplissez, car depuis l'ouverture du centre, vous avez de nombreux oiseaux et de nombreux animaux qui viennent à vous.
Oui, effectivement. En 7 mois, nous avons dépassé le cap des 1000 accueils, ce qui fait de ce centre de Villeverac, de centre régional, j'allais dire de Villeverac, un des plus grands de France, avec une diversité tout à fait remarquable, puisque c'est près de 83 espèces animales différentes qui ont été accueillies dans ce centre.
Victime de votre succès ou pas ?
Oui, alors c'est toujours la même chose. On ne peut pas se réjouir de recevoir beaucoup d'animaux. Ceci étant, on peut aussi se dire que même si le centre n'existait pas, ces oiseaux-là ou ces animaux-là auraient été quand même en difficulté. Donc je pense que c'est un trou qu'il fallait combler et un manque comme ça qui est un petit peu réparé. Alors c'est vrai que ce succès-là entraîne pour notre association une dépense en moyens humains, financiers, considérable et je ne peux pas penser que sans le travail, sans l'apport important des bénévoles et des éco-volontaires, nous n'y arriverons pas, ça c'est certain.
Et là vous avez justement assez de moyens humains et le centre est assez bien dimensionné?
Alors nous pensons que le centre est suffisamment dimensionné. Si vous voulez, le problème, c'est que l'activité n'est pas égale tout au long de l'année. Actuellement, nous sommes un petit peu dans la période creuse, même si nous recevons en moyenne 2 animaux par jour. Nous nous attendons au pire avec l'arrivée du printemps, à partir des mois de mai, juin, juillet, où là, nous avons des apports considérables d'animaux qui nous sont apportés, puisqu'il y a un apport important de poussins en particulier.
Mathieu Tellen.
J'avais une question, mais sur un niveau plus européen. En France, on le voit, la LPO a impulsé la mise en place, ou d'autres associations, ou d'autres structures, organismes ont impulsé la mise en place de centres dédiés à la préservation et protection de la faune sauvage. Est-ce qu'au niveau européen, il y a un mouvement d'ensemble, ou est-ce que la France fait exception? Est-ce qu'elle est en retard par rapport à ses voisins européens sur cette prise en compte que, ok, l'être humain vit dans un milieu, mais il n'est pas tout seul, et qu'il doit aussi se soucier, de par ses activités, se soucier aussi de ses voisins. Et ses voisins, c'est la faune sauvage, c'est pas pour en faire des animaux domestiques, c'est pour garder ce caractère sauvage et toute la diversité qui est liée avec.
Pierre Maigre.
Il est bien évident que nous ne pouvons pas rester purement à un niveau local. Et j'irai même bien au-delà de l'Europe, puisque la LPO au niveau national est correspondante de BirdLife International, c'est-à-dire qu'elle est la représentante française des associations de protection des oiseaux, mais ceci au niveau mondial. Et qu'elle développe à travers son service international, justement, un certain nombre de missions à l'étranger, j'allais dire, car les oiseaux ne connaissent pas de frontières et il serait utopique de vouloir simplement les protéger sur un site bien déterminé si partout ailleurs ils étaient délaissés. Alors en ce qui concerne les centres de soins, les politiques sont un petit peu différentes. Bien entendu, on trouve des centres de sauvegarde et de soins dans l'ensemble des pays. Maintenant, les moyens mis en œuvre, par exemple, sont très différents. En Grande-Bretagne, je vous rappellerai que la Société royale de protection des oiseaux regroupe plus d'1 million d'adhérents. En France, nous sommes 46 000. Donc les moyens ne sont pas du tout les mêmes. En Espagne, de très nombreux centres de sauvegarde sont financés, ou étaient financés, parce que maintenant, avec les restrictions budgétaires, beaucoup de centres éprouvent des difficultés, mais ils étaient financés par les Generalidad, par exemple. Alors qu'en France, la totalité des centres sont financés par le système associatif. Donc il y a des modèles différents, des systèmes de fonctionnement différents. Ceci étant, nous avons des objets communs et des relations en particulier très étroites entre les différents centres. Il y a 15 jours, 3 semaines, nous avons été amenés à collaborer avec des Espagnols, par exemple, qui sont venus ici car ils étaient à la recherche d'un de leurs vautours qui s'était échappé et qui naviguait quelque part dans les roues. Vautours qui faisait l'objet d'un programme de réintroduction en Catalogne. Hein. Donc nous tenons informés, bien entendu, et nous sommes en étroit partenariat avec l'ensemble des pays. À ce titre, le conseil d'administration de l'ALPO Héro, si je veux raisonner à une petite échelle, m'a autorisé à signer une convention avec une association ornithologique marocaine, par exemple, avec laquelle nous pensons développer un certain nombre de projets de partenariat, puisque malheureusement, un certain nombre d'animaux provenant du Maroc font l'objet de trafic et peuvent être interceptés par les douanes françaises. Par cet intermédiaire-là, on pourrait leur rendre leur liberté après aux Marocains. Hein. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein.
Sur votre financement, le financement de la LPO, vous bénéficiez aussi du mécénat. Et on a pu voir aussi que des grands groupes industriels français vous aidaient financièrement. Comment vous l'expliquez ?
Ah ouais, je pense que c'est y a une double convention. D'une part, les grands groupes se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas ne pas se préoccuper des problèmes de développement durable. Hein. Même pour certains, si pour certains, tout au moins, c'était une manière parfois de redorer un petit peu un blason qui a pu être terni. Hein. De notre côté, nous les avons. À partir du moment où ce sont des groupes qui ne sont pas entachés, j'allais dire honteusement, par des actions répréhensible et qui irait à l'encontre de nos objectifs, ben nous sommes attachés à prendre contact avec ces groupes pour essayer de bâtir ensemble quelque chose. Hein. De même, même si c'est à un niveau un peu plus modeste, nous nous sommes tournés, par exemple, vers la Fédération départementale des chasseurs. Hein. Nous ne partageons pas toujours la même philosophie, et même la même sensibilité. On a parfois des divergences profondes, mais je crois qu'il y a aussi des sujets, parfois, qui peuvent nous rassembler. Et il est intéressant que nous regardions, parfois aussi, dans la même direction avec d'autres partenaires. Hein.
La LPO, hein, reconnue d'utilité publique, la Ligue de protection des oiseaux. Vous avez également un volet éducatif, Micheline Blavier, que vous développez.
Oui, nous avons, à cet effet, nous avons un salarié animateur, donc, qui intervient au niveau des écoles, au niveau des foyers de personnes âgées, enfin un petit peu dans tous les domaines, pour éduquer, sensibiliser à la biodiversité.
Avec donc des sorties, est-ce qu'on peut, le public peut venir visiter le centre ou pas ?
Alors, le public ne peut, le centre de soins proprement dit, n'est pas ouvert au public. Par contre, nous avons le jardin pédagogique qui est ouvert au public pendant les heures d'ouverture du centre de sauvegarde.
À la veille du printemps, vous allez en profiter pour aussi vous faire connaître et aller à la rencontre du public à travers différentes manifestations.
Oui, par exemple, le 23 mars, nous proposons la Nuit de la Chouette à 3 endroits différents. Toutes les informations sont sur notre site. Nous accueillerons donc le public toute la journée du samedi 23 mars. Et puis, nous participerons à différentes manifestations, comme la fête de la nature, la fête de la biodiversité, etc.
Et vous avez également mis en place un réseau de refuges d'oiseaux, autrement dit chez les particuliers en Languedoc-Roussillon, Pierre Maigre.
Oui, alors pour le département de l'Hérault, puisque la LPO Hérault n'a vocation à intervenir que dans notre département.
Hein. Mais pas le centre. Le centre est bien régional.
Le centre, lui, est bien régional. Hein. Donc les refuges sont effectivement ouverts aux particuliers, mais également aux collectivités locales, voire à certaines professions comme les maisons de retraite pour personnes âgées, etc. Hein. De nombreuses écoles, des collèges également, et puis des entreprises maintenant s'ouvrent justement à cette solution, j'allais dire, qui permet d'une part d'afficher la volonté de préserver la biodiversité, mais surtout une biodiversité de proximité. Là, il ne s'agit pas, on ne s'adresse plus aux grandes espèces rares, l'aigle de Bonelli ou autre, mais c'est souvent dans le jardin.
En quoi ça consiste, justement?
Si vous voulez, ça permet d'avoir les bons gestes, d'une part. Et les bons gestes, c'est à la fois ce qu'il ne faut pas faire, c'est aussi fort que ce qu'il faut faire. Donc c'est pour donner de la nourriture, de l'abri, de ne pas utiliser des produits chimiques qui empoisonnent notre environnement, enfin d'avoir les bons gestes justement pour maintenir, voire développer une biodiversité de proximité qui passera par les oiseaux, qui passera éventuellement par les abeilles qui sont des pollinisateurs indispensables à notre nature, mais qui permettra aussi de garder les petits reptiles, les lézards par exemple, les batraciens et les oiseaux, de les avoir. Donc c'est une contribution avec des gestes souvent simples, la pose d'un nichoir au printemps par exemple, la mise à disposition et le maintien effectivement d'un petit point d'eau. Il n'est pas nécessaire d'avoir une très grande mare, des fois vous savez, une assiette pleine d'eau, etc., ça suffit pour avoir des oiseaux qui sont là à demeure et qui ont besoin de l'eau aussi bien en été qu'en hiver d'ailleurs.
D'autres actualités pour conclure, Pierre Maigre?
Oui, parce que nous rentrons dans une période maintenant, celle du printemps, dont nous assurons un certain nombre de suivis, justement, d'espèces patrimoniales ou faisant l'objet de plans nationaux d'action. Ces suivis sont réalisés pour grande partie au printemps. Ça concerne des espèces souvent emblématiques, parfois très menacées, comme l'indiquait Micheline, la pigrièche à poitrine rose, par exemple, pour laquelle d'ailleurs nous apportons un complément alimentaire à un couple sur deux. Et en un mois, nous distribuons plus de 8000 grillons que nous mettons à la disposition de ces oiseaux-là pour augmenter un petit peu leur productivité au moment de la reproduction. Ça nécessite aussi, bien entendu, des médiations avec les propriétaires, les agriculteurs du secteur, pour qu'ils soient vigilants à ne pas utiliser trop souvent des produits chimiques, par exemple, qui détruisent absolument tous les insectes ou la végétation des secteurs, etc. Et puis nous avons d'autres espèces qui sont suivies comme ça, comme l'outarde canepetière, comme le faucon cresserellette, le grand butor et bien d'autres. Et j'allais dire, nous faisons appel chaque fois que possible au grand public, même s'il n'est pas membre de l'association. Nous avons des inventaires participatifs où chacun peut nous communiquer ce qu'il a dans son jardin, participer à des enquêtes sur les hirondelles, par exemple. Et je crois que pour des écoles, pour les générations futures, ça peut être justement un premier pas mis dans la protection de la biodiversité et de la nature.
Un grand merci pour toutes ces précisions sur la LPO, Ligue de protection des oiseaux dans l'Hérault, et puis ce centre régional de sauvegarde de la faune sauvage que l'on a pu visiter avec Mathieu, donc basé à Villeverac, route de Loupian, 15 rue des Cigales précisément, avec un numéro de téléphone fixe que je vous redonne, le 09 67 18 76 24. Merci à Micheline Blavier, Pierre Maigre et puis Maëlle Carmabon et Lucie Hirle pour votre accueil. C'est la fin de cette émission L'eau à la bouche. Rendez-vous le mois prochain, Mathieu.
Oui, on se donne rendez-vous le mois prochain. Le programme, je crois qu'on ne l'a pas encore défini, donc ça, on va y réfléchir. Mais je crois savoir que les oiseaux commencent à se dire entre eux cette adresse, ici, route de Loupian. Je crois que ça piaille dans ce sens-là. Ils sont tous contents, ils savent qu'il y a un jour et un lieu ouvert 7 sur 7 où ils peuvent venir s'y faire guérir, soigner, réconforter peut-être un jour aussi. Si on voulait être humanisé un peu, mais tout cela, on parle de faune sauvage, donc il faut aussi savoir garder sa distance. En tout cas, moi, j'étais ravi de venir visiter ce nouveau lieu dont j'en ai appris la connaissance très récemment, malgré sa création il y a plus d'un an. Et puis, très impressionné d'avoir rencontré l'individu 112, un flamant rose. Voilà, c'était très agréable.
Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Au revoir.